RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage au Qatar. Après 6 mois de blocus et de défis, le 5 juin dernier, 4 pays arabes annonçaient la rupture de leurs relations avec Doha et le début d'un blocus. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte accusent le Qatar de soutenir les groupes terroristes dans la région ou encore d'être trop proche de l'Iran. Le Qatar rejette ces accusations et refuse de se plier aux exigences de ses adversaires. Le petit émirat gazier veut montrer qu'il tient bon face à la tentative de blocus et qu'il poursuit ses projets, à commencer par le plus spectaculaire d'entre eux, l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022. Grand reportage de notre envoyé spécial à Doha, Nicolas Falaise.
L'aéroport international de Doha. Les tableaux d'affichage en témoignent. Plus aucun avion ne vole entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte. Ces 4 pays ont aussi interrompu leur liaison maritime et la seule frontière terrestre du Qatar, celle qu'il partage avec l'Arabie Saoudite, est fermée. Le pays s'est brutalement réveillé sous blocus le 5 juin dernier.
Quand c'était passé, en fait, c'était vraiment un choc, un grand choc pour tout le monde parce que c'est un petit peu triste que ça se passe entre des pays qu'on est toujours une seule famille, en fait.
Mouna Soulaïti a 32 ans, elle est qatarienne, elle a étudié en France et travaille aujourd'hui pour le service marketing de l'un des géants gaziers du Qatar. Nous la rencontrons dans une galerie commerciale du centre-ville de Doha.
Avec le temps, on a commencé à ouvrir les yeux et savoir comment les autres pensent. Mais c'était un choc en fait, parce qu'en même temps, on croyait que c'était au niveau politique, mais après ça a commencé à être au niveau social. Il y avait les familles qui s'étaient séparées, en fait, et c'était trop dur pour nous. Ma mère, elle est égyptienne, donc maintenant, elle est en Égypte, en fait, et depuis longtemps, j'essaie d'avoir le visa, parce que maintenant, c'est de plus en plus très compliqué, et c'est trop dur d'avoir le visa, et ça me gêne quand même d'aller la voir et tout. Et même, je vois la même chose qui se passe avec tout le monde qui sont des membres de famille de pays de Golfe, des Émirats Arabes Unis ou de Saoudite. Au niveau de travail, il y a beaucoup de businessmen qui ont de business aux autres pays, par exemple en Égypte ou en Arabie Saoudite, que maintenant, ils ont vraiment perdu beaucoup. Et c'est ça qui est bien affecté dans notre vie, en fait.
L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte disent que le Qatar soutient des organisations terroristes dans la région, est trop proche de l'Iran. C'est l'image que vous avez de votre pays ?
Pas du tout, en fait. C'était vraiment quelque chose qui est choquant, qui vient avec des idées qui sont un petit peu bizarres, parce que nous, le Qatar, c'est toujours contre le terrorisme, en fait. On a beaucoup d'organisations qui travaillent vraiment très dur à être contre le terrorisme. Et je ne sais pas c'est quoi le but exact derrière dire quelque chose comme ça. Peut-être c'est toujours accuser un pays avec quelque chose de très faux. Ça c'est toujours le jeu politique en fait qu'on comprend pas. C'est drôle même. Moi je le trouve très drôle en fait que des pays comme ça qui disent comme ça. Donc je comprends pas en fait.
C'est une crise profonde que traverse le Conseil de coopération du Golfe, l'organisation régionale qui regroupe les 6 monarchies de la péninsule arabique. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont présenté une liste de 13 demandes au Qatar. L'une de ces exigences concerne une chaîne de télévision, Al Jazeera, dont ils demandent la fermeture. Depuis 2 décennies, Al Jazeera s'est imposé sur les écrans du monde entier. La chaîne qatarienne affirme toucher 350 millions de foyers dans le monde. Nous sommes au siège d'Al Jazeera à Doha. Dans la région, on s'active pour le lancement d'une séquence en direct. Après avoir travaillé pour Al Jazeera en arabe, Giles Trundle est aujourd'hui à la tête de la chaîne en anglais.
En 2011, il y a eu ce qu'on appelle les printemps arabes. durant lesquelles Jazeera était en direct pour raconter les espoirs, les rêves et les aspirations des gens qui manifestaient dans les rues. Depuis, nous voyons que certains régimes, certains pays, sont entrés en réaction contre les printemps arabes. Je pense que ces pays, et parmi eux ceux qui imposent un blocus au Qatar, n'acceptent qu'un seul discours officiel, et qu'ils se sont sentis menacés par le discours que l'on entendait alors dans ces manifestations. Comme la situation a ensuite évolué, ils tentent de faire taire des médias comme Al Jazeera, qu'ils considèrent comme une menace.
Le Qatar n'a pas l'intention de fermer Al Jazeera, pas plus qu'il n'a l'intention d'expulser l'Égyptien Youssouf Al-Qaradawi, considéré comme le principal penseur des frères musulmans dans la région. Naturalisé qatarien, Youssouf Al-Qaradawi a longtemps été la vedette d'une émission religieuse hebdomadaire sur Al Jazeera. L'expulsion de personnalités islamistes vivant au Qatar, c'est l'une des demandes formulées par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte dans leur bras de fer avec le Qatar. Mehran Kamrava est un chercheur irano-américain. Il travaille à l'université américaine de Georgetown, qui possède une antenne à Doha.
Dès le départ, ces demandes ont été conçues pour être inacceptables. Elles ne sont pas faites pour être satisfaites. La fermeture d'Al Jazeera, par exemple, ce n'est même pas un point de départ. De même que la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran. Donc les demandes ont été formulées pour que le Qatar ne puisse pas s'y conformer. Le but ultime de ces demandes, c'est de transformer le Qatar en un second Bahreïn. Bahreïn n'a pas sa propre politique étrangère. Et il ne possède pas non plus sa propre politique sécuritaire. Il a confié sa politique étrangère et de sécurité à l'Arabie Saoudite. Et Bahreïn est une destination de vacances très agréable pour les Saoudiens qui viennent y passer le week-end. Et l'idée, c'était, faisons la même chose avec le Qatar. Faisons en sorte que le Qatar n'ait pas une politique étrangère et de sécurité indépendante. Donc posons ses exigences, et au moment de trouver un compromis, nous lui demanderons de changer radicalement sa politique étrangère, ce que le Qatar n'a jamais accepté jusqu'à présent.
Le Qatar est accusé de soutien au terrorisme par ses voisins avec lesquels il est aujourd'hui en conflit. C'est aussi un reproche qui lui est parfois adressé en Occident. D'où vient, d'après vous, cette accusation de soutien au terrorisme ?
On ne peut pas nier qu'en Libye ou en Syrie, le Qatar a soutenu des organisations terroristes, particulièrement les groupes affiliés à Al-Qaïda en Syrie. Mais c'est aussi ce que font l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc je pense qu'il est malhonnête que le Qatar soit montré du doigt. Là où le Qatar a complètement échoué, c'est qu'il n'a pas réussi à bâtir un discours expliquant son soutien aux organisations qui luttaient contre Kadhafi, puis contre Bachar al-Assad. Le Qatar a été mauvais en communication. Et en Europe, on estime que le Qatar soutient le terrorisme. L'analyse du Qatar, surtout après les printemps arabes, c'est qu'il y a un avenir pour l'islam politique au Moyen-Orient. Et à partir de là, que des groupes comme les frères musulmans doivent être impliqués dans le processus politique. Dans le cas contraire, si on ne les retrouve pas dans les urnes, alors ils deviendront des organisations terroristes. Et c'est là que réside la différence de point de vue. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis accusent le Qatar de soutenir les frères musulmans, ce qui, selon ces pays, revient à soutenir le terrorisme. Therefore, is
tantamount to terrorism. Le Qatar fait un peu figure de mouton noir.
Les frontières saoudiennes entre l'Arabie Saoudite et le Qatar sont fermées depuis ce matin.
C'est quand même un coup dur pour l'économie du Qatar, hein, qui est quand même en régression ces dernières années.
Lorsque la crise a éclaté le 5 juin dernier, beaucoup ont pensé qu'elle ne durerait pas, que le petit Qatar ne tiendrait pas longtemps face à la pression politique et économique imposée par ses voisins, et notamment la puissante Arabie Saoudite. 6 mois plus tard, aucun signe de pénurie dans les magasins du Qatar où les produits laitiers, les fruits et les légumes viennent désormais d'Iran et de Turquie, alors qu'ils étaient auparavant importés des pays arabes voisins. Mais le Qatar ne s'est pas contenté de changer de fournisseur, il entend produire aussi une partie de ce qu'il consomme. Et c'est une ferme laitière, la ferme Baladna, qui est devenue l'emblème de cette démarche nouvelle. Au milieu d'un paysage désertique, l'homme qui nous conduit entre les immenses étables s'appelle John Doerr. Ce fermier irlandais élève des vaches depuis des décennies au Moyen-Orient. Il a été recruté en mars dernier pour diriger la ferme. Quelques semaines plus tard, le blocus est venu bouleverser sa feuille de route. Nous voici avec lui face à une treilleuse rotative, une sorte de manège géant sur lequel les vaches montent et descendent pour la traite et dont John Doerr est très fier.
Alors les vaches arrivent par ici, Elles avancent toutes seules, on leur pose la trailleuse. Il faut 8 minutes pour qu'une vache fasse le tour complet. Et à la fin du tour, la traite est terminée. Tout se détache automatiquement. Et il y a 100 places sur cette trailleuse rotative.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé pour cette ferme lorsque la crise du golf a commencé au mois de juin?
Disons qu'une fenêtre d'opportunité s'est ouverte. Nous voulions lancer l'élevage de vaches ici. Et nous avions fait des études de faisabilité. Et puis le blocus est arrivé. Nous étions prêts, nous avions le capital et nous nous sommes lancés. Le pays était à fond derrière nous pour que le Qatar devienne autosuffisant en lait. Et c'est ce que nous sommes sur le point de faire. On parle de 120 à 150 millions de litres de lait par an, ce qui correspond en gros à 300 tonnes de lait par jour. Il faut 12 000 à 14 000 vaches pour arriver à ça.
Vous diriez que c'est une révolution pour le pays ?
Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais cet argent, vous ne pouvez pas le manger. Sans nourriture, vous n'avez pas de souveraineté. C'est de souveraineté dont il s'agit.
D'où viennent les vaches, les chèvres et les moutons, et comment les avez-vous acheminés ici au Qatar ?
Alors les 500 premières vaches sont venues d'Europe par avion. Et les 3500 autres sont venus d'Amérique, par avion également. Les 10 000 suivantes arriveront début 2018, par bateau cette fois-ci, en provenance d'Amérique.
Le Fonds monétaire international estime que la crise actuelle a pour l'instant un impact limité sur l'économie de la région. Mais à plus long terme, le FMI estime qu'un bras de fer prolongé pourrait avoir des conséquences sur la croissance du Qatar, comme de ses adversaires. Ce n'est pas du tout le discours que tient Youssouf Al-Jaïda, qui nous reçoit au 20e étage d'une des tours du centre de Doha, vêtu des habits blancs traditionnels des habitants de la région. Youssouf Al-Jaïda est le président du Qatar Financial Center, une plateforme destinée à faciliter les investissements étrangers dans le pays. Quitte à surprendre, Youssouf Al-Jaïda assure que la crise a des effets bénéfiques pour le Qatar et son économie.
Beaucoup de multinationales ne peuvent plus accéder au marché qatarien à partir des pays qui ont imposé le blocus. Donc pour maintenir leurs relations avec leurs clients, elles ont bien été obligées de mobiliser 4 ou 5 personnes pour couvrir le marché qatarien. Ce sont des affaires en plus pour nous. C'est le côté positif pour le Qatar Financial Center. Si on parle du Qatar maintenant, nous avons bâti de nouvelles alliances avec d'autres pays voisins. Nos relations sont plus fortes avec Oman. Nous avons une relation commerciale beaucoup plus intense avec la Turquie. Nous avons une relation plus forte qui est en train de s'établir avec l'Iran.
Est-ce que vous devez aussi quelquefois rassurer des investisseurs potentiels qui peuvent s'inquiéter de la situation politique du Qatar en crise avec ses voisins?
Je voudrais dire, depuis le 5 juin, le Qatar est un pays différent. C'est un nouveau Qatar. Un Qatar plus fort qui est en train de naître. En 6 mois de blocus, beaucoup de réformes ont été initiées. L'accent est mis sur l'autosuffisance, avec des efforts pour produire notre nourriture, nos produits manufacturés, nos matériaux. Le pays devient aussi beaucoup plus libéral, ouvert et accueillant. Les visas ont été supprimés pour 80 pays d'un seul coup, du jamais vu dans l'histoire du Qatar. Et s'il n'y avait pas eu la crise, ce ne serait jamais arrivé. J'aime considérer l'aspect positif des choses. Cet événement a agi comme un catalyseur.
Ce discours volontariste, ce défi au blocus, on l'entend beaucoup au Qatar. Même si les habitants reconnaissent aussi que les prix ont augmenté, conséquence des nouveaux circuits d'approvisionnement qu'il a fallu improviser. Les citoyens qatariens ne sont pas les seuls concernés par les effets du blocus. Au Qatar, 90% de la population est étrangère. Ils sont plus de 2 millions de travailleurs venus des Philippines, d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, du Soudan. Ils travaillent sur les chantiers de construction, notamment ceux des infrastructures du Mondial de football 2022, ou dans les commerces et les services. Comme cet employé philippin qui constate qu'une partie de la clientèle a disparu, celle qui venait des pays qui ont rompu avec le Qatar.
Il y avait beaucoup de gens qui venaient ici pour le tourisme, d'Arabie Saoudite ou d'autres pays. Mais maintenant, il y en a vraiment très très peu qui viennent visiter Doha. Ça fait moins de travail pour moi. C'est mieux quand il y a plus de touristes ici.
Vous avez vu d'autres changements sur les prix, par exemple ?
Oui, ça a changé pour la nourriture. Les légumes, par exemple. Les tomates sont chères. D'autres choses aussi. Les tomates, avant, elles coûtaient 2 rials et demi. Maintenant, c'est 7, 8 rials par kilo. C'est cher pour la viande aussi. Pour moi, c'est très difficile. Avant, un poulet, c'était 15 rials. Maintenant, c'est 20 rials.
C'est difficile pour les travailleurs étrangers comme vous au Qatar.
Le salaire est le même, mais les prix ont augmenté. J'envoie toujours la même somme d'argent à mes proches aux Philippines, mais mon budget a diminué parce que les prix ont augmenté.
Depuis quelques semaines, il y a un salaire minimum pour les travailleurs migrants au Qatar, 750 rials, environ 170 euros.
Nous sommes sur la corniche de Doha, baignée par les eaux du golfe Persique. Il y a des bateaux traditionnels en bois, mais de l'autre côté de la baie, on voit surgir les silhouettes des immeubles ultramodernes du centre-ville. Et on remarque que plusieurs de ces bâtiments arborent des portraits géants de l'émir du Qatar, Tamim. Ces portraits, accompagnés de louanges au chef de l'État, ils ont fleuri partout depuis le début de la crise. Sur les voitures, les commerces, les immeubles et même parfois les t-shirts des enfants.
Globalement, rien n'a changé. Alors, ce qui a changé, par contre, c'est cette énorme cohésion du peuple envers l'émir.
Cela fait 20 ans que le Français Patrick Roux vit au Qatar, où il exerce comme ostéopathe.
L'émir est un jeune émir. Par rapport à son père, il n'y avait pas cette ferveur populaire qu'avait Cheikh Ahmad. Là, je peux vous dire qu'en l'espace de quelques semaines, il y a eu une montée d'une ferveur populaire envers l'émir qui n'existait pas avant.
Cette ferveur autour de l'émir, ce sont notamment ces portraits de lui. Oui. Ils étaient là avant si nombreux ?
Non, il n'y avait aucun. C'est arrivé, les portraits de l'émir qu'on voit maintenant partout sur les voitures, c'est arrivé après la crise.
C'est un portrait devenu une icône nationale, le visage de profil de l'émir Tamim, la mèche rebelle et le regard qui semble défier ses adversaires. Après 6 mois de blocus, l'émir apparaît renforcé. Le Qatar tient bon économiquement et diplomatiquement. Américains et Européens ont montré qu'ils n'avaient pas l'intention d'emboîter le pas à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et à l'Égypte. Des responsables de ces pays ont récemment remis en cause le projet phare du Qatar, l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022, dont les infrastructures sortent de terre, comme ici au stade de Lusail, qui pourra accueillir 80 000 spectateurs. Pour l'instant, c'est une étendue sableuse où pousse une forêt de piliers de béton et de ferraille.
Je m'appelle Tamim Lofti Alabed. Je suis le chef de projet du stade de Lusail pour le comité organisateur. Et là, nous sommes au milieu du terrain, dans ce stade qui doit accueillir l'ouverture et la clôture de la Coupe du Monde de football 2022, ici, au Qatar.
Cela fait 6 mois que dure la crise du Golfe, avec un blocus imposé au Qatar par certains de ses voisins. Est-ce que cela se voit ? Est-ce qu'il y a une conséquence sur ce chantier ?
Avec nos partenaires et nos fournisseurs, nous avons réussi à trouver d'autres sources d'approvisionnement de matériaux. Et nous avons modifié nos voies d'approvisionnement. Donc la réponse à votre question est simple. Non, il n'y a pas de conséquence due au blocus.
Y a-t-il un message que le Qatar et que les personnes en charge de l'organisation de la Coupe du Monde comme vous, un message que vous adressez aux pays qui ont rompu avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ?
Le message ne s'adresse pas à eux en particulier, il s'adresse au monde entier. Le message, c'est que la Coupe du Monde est un facteur de paix, un facteur de développement et un facteur d'unité. Et tout le monde est le bienvenu au Qatar en 2022.
Au Qatar, 6 mois de blocus et de défis. Reportage Nicolas Falaise, réalisation Pierre Chaffongeon.